Bonjour à toutes et à tous. C'est une joie de poursuivre ce matin dans la lettre aux Philippiens qu'on étudie depuis le mois de septembre. Je ne sais pas pour vous, mais il est parfois dans nos vies des choses que nous voulons absolument. Nous jetons notre dévolu sur quelque chose et nous ne voulons rien d'autre que cette chose-là. Et nous sommes tellement déterminés à l'avoir, à l'obtenir, que nous sommes prêts à renoncer à d'autres choses qui comptaient pour nous, mais qui ne sont rien à côté de ce qu'on désire. Pour illustrer ça, je me rappelle plein de fois dans ma jeunesse, quelque chose que je voulais, un cadeau, quelque chose en particulier, un jouet ou un objet, mais... Au grand désarroi de mes parents, ce n'était pas forcément parmi les choses les moins chères. Et combien de fois j'ai renoncé à un cadeau d'anniversaire, à un cadeau peut-être de fin d'année parce que j'avais bien travaillé à l'école. J'avais même des fois revendu certaines de mes affaires pour gagner un petit peu d'argent et pour pouvoir avoir ce que je voulais. Je vous invite à lire ce passage de ce jour dans Philippiens chapitre 3. Les versets 1 à 11. Maintenant donc, mes frères et sœurs, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je n'hésite pas à vous écrire les mêmes choses, et cela contribue à votre sécurité. Faites attention aux chiens. Faites attention aux mauvais ouvriers. Faites attention aux faux circoncis. En effet, les vrais circoncis, c'est nous. Nous qui rendons notre culte à Dieu par l'Esprit de Dieu, qui plaçons notre fierté en Jésus-Christ et qui ne mettons pas notre confiance dans notre condition. Pourtant, moi-même, je pourrais mettre ma confiance dans ma condition. Si quelqu'un croit pouvoir se confier dans sa condition, je le peux plus encore. J'ai été circoncis le huitième jour. Je suis issu du peuple d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu. En ce qui concerne la loi, j'étais pharisien. Du point de vue du zèle, j'étais persécuteur de l'Église. Par rapport à la justice de la loi, j'étais irréprochable. Mais ces qualités, qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême, qui est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout, et je considère tout cela comme des ordures, afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, d'une manière ou d'une autre, à la résurrection des morts. Jusqu'ici, c'était la lecture de la parole de Dieu. Dans ce passage, il ressort que Paul, qui écrit cette lettre aux chrétiens de l'église de Philippe, ne veut rien d'autre que se confier en Jésus-Christ. Paul ne veut rien d'autre que connaître Jésus-Christ. Et il ne veut rien d'autre que ressembler à Jésus-Christ. Paul vient de parler de Timothée et d'Épaphrodite dans le passage qu'on a vu la semaine dernière. Il a parlé de eux, de ces deux personnes, comme des personnes transformées par l'Évangile, qui reflètent par leur vie la personne de Jésus-Christ. Alors Paul lance maintenant un appel à ses lecteurs et il leur dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Dans une autre version, il est dit Réjouissez-vous de tout ce que le Seigneur est pour vous. C'est un appel à se réjouir de son salut, du fait que Christ est notre Seigneur et notre Sauveur. Christ est tout pour nous et cela devrait nous réjouir constamment. Une joie qui va même au-delà des circonstances adverses de nos vies. Si Paul invite les chrétiens de Philippe à se réjouir, à mettre leur joie dans le Seigneur, c'est bien parce qu'il existe malheureusement des personnes qui seraient susceptibles de leur enlever cette joie du salut. Et il procède à une triple mise en garde contre ces personnes qu'il qualifie, et on peut penser que c'est le même groupe de personnes, qu'il qualifie de chiens, de mauvais ouvriers et de faux circoncis. Paul n'est pas tendre dans ses propos à leur égard. Mais il faut le comprendre, ces personnes constituent un vrai danger pour l'Église en raison de ce qu'elles enseignent et qui n'est pas juste. Ces gens, qui étaient très certainement d'origine juive, affirmaient que les personnes qui n'étaient pas juives, donc d'arrière-plan païen, et qui se convertissaient à Christ, devaient également obéir à la loi juive en se faisant circoncire. Parce qu'avant que Jésus vienne, la circoncision physique était un signe dans la chair, dans notre corps, qui montrait qu'on était juif et qu'on faisait partie en cela du peuple que Dieu avait choisi. Et ce raisonnement des faux enseignants est vicieux parce qu'il sous-entendait que, en quelque sorte, que le sacrifice de Christ n'était pas suffisant. En fait, ils étaient en train d'enseigner « Il vous faut Christ plus la circoncision. Il vous faut Christ plus l'obéissance à la loi. » Et Paul rappelle alors ce qui caractérise les véritables disciples de Jésus-Christ. Ce ne sont pas ces personnes qui sont circoncis dans la chair, dans leur corps, mais il dit c'est nous. Nous, c'est Paul et les chrétiens de Philippe. Nous qui sommes circoncis de cœur, une circoncision qui n'est pas physique, mais spirituelle. Dans une autre de ses lettres, Paul a dit ceci, « Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, accomplie par l'esprit, et non par la loi écrite. » Le véritable croyant, le véritable disciple de Jésus-Christ, c'est celui qui a reçu l'Esprit de Dieu dans son cœur, qui est en relation avec Dieu grâce à cet Esprit qui vit en lui. Le véritable croyant, nous dit Paul, c'est celui qui place toute sa fierté et sa confiance en ce que Jésus-Christ a fait pour lui, et non pas en ses propres efforts, en ses propres mérites, en ses propres accomplissements et sa bonne moralité. Voilà ce qui peut nous enlever ou nous faire perdre petit à petit la joie de notre salut. Quand nous commençons à compter sur nos efforts, à compter sur notre obéissance à Dieu pour mériter en quelque sorte notre salut. Nous sommes peut-être pour plusieurs ici ce matin très au clair sur le fait qu'on est sauvé par Dieu sur la base unique de notre foi. Laissez-moi vous lire un extrait du livre qui s'intitule « À l'école de la grâce » et que je vous recommande fortement. Je cite « Prenez deux journées complètement différentes dans votre vie. La première journée est une bonne journée spirituellement parlant. Vous vous levez tout de suite lorsque votre réveil sonne, puis vous passez un moment calme, rafraîchissant et bénéfique dans la lecture de la Bible et la prière. Vos plans pour la journée se déroulent dans l'ensemble comme prévu et vous avez l'impression de ressentir la présence de Dieu auprès de vous. Pour couronner le tout, vous avez une occasion inattendue de partager l'évangile à une personne en recherche. Tout en parlant, vous priez en silence que le Saint-Esprit vous vienne en aide et œuvre également dans le cœur de cet ami qui vous écoute. La deuxième journée est à l'opposé. Vous ne vous levez pas à la première sonnerie du réveil. Au contraire, vous l'éteignez et vous vous rendormez. Lorsque vous vous réveillez enfin, il est trop tard pour prendre un temps de culte personnel. Vous allez rapidement au petit déjeuner pour vous lancer ensuite dans la journée. Vous vous sentez coupable de vous être rendormi et d'avoir manqué votre culte personnel. En plus, pratiquement tout va de travers ce jour-là. Vous devenez de plus en plus irritable au fur et à mesure que la journée avance. Vous ne ressentez pas du tout la présence de Dieu dans votre vie. Ce soir-là, pourtant, vous avez une occasion inattendue pour partager l'évangile avec une personne en recherche. Question. Aborderiez-vous ces deux occasions de témoignage avec un degré de confiance différent? Trouveriez-vous difficile de croire que Dieu va vous bénir et vous utiliser au beau milieu d'une journée plutôt mauvaise spirituellement? Si vous avez répondu oui à ces deux questions, sachez que vous n'êtes pas seul. Dans ces deux journées, nous croyons que la bénédiction de Dieu sur notre vie dépend d'une manière ou d'une autre de nos performances spirituelles. Dans un cas, nous faisons certainement preuve d'orgueil. Dans l'autre, nous culpabilisons. Le regard que Dieu porte sur nos vies est favorable uniquement à cause de Christ et non pas en raison de nos performances spirituelles, quelles que soient. Dans une journée spirituellement bonne ou une journée spirituellement mauvaise, Dieu est là, Dieu nous regarde favorablement, Dieu nous aime profondément. Paul va justement parler de son cas personnel en évoquant ses propres performances et combien elles ne sont rien à côté du fait de connaître Jésus-Christ. Si nous pouvions entrer en relation avec Dieu sur la base de nos efforts et de nos performances, de nos mérites, alors Paul affirme qu'il avait un sérieux CV, un sérieux curriculum vitae à faire valoir et sur lequel il comptait en quelque sorte pendant une période de sa vie. Il était un vrai prétendant à cette vie avec Dieu. Il était un pur juif, hébreu, né d'hébreu. Il est juif de génération en génération, membre du peuple de Dieu. Il est issu d'une des tribus dont sont issus des chefs et même le premier roi d'Israël, la tribu de Benjamin. Dans sa vie, la loi de Dieu a toujours eu une place centrale. Il s'est fait circoncire le huitième jour, comme le prescrivait la loi, le huitième jour après sa naissance. En grandissant, il est devenu pharisien. Les pharisiens, c'est ceux qui étudiaient sérieusement la loi de Dieu, qui la connaissaient tellement bien, qui l'enseignaient aux autres et qui la mettaient en pratique. Et à ce sujet, il se considérait irréprochable dans son obéissance à cette loi. Il était plein de zèle pour Dieu, il nous dit, en faisant tuer et assassiner des chrétiens, en pensant que c'était une secte et que c'était ce que Dieu attendait de lui. Oh, Paul était remarquable à tout point de vue et il était tellement fier de tout cela. Il y a quelques années de cela, quand j'étais au lycée, j'avais appris une leçon par cœur. J'avais passé des heures et des heures et des heures à étudier cette leçon. Je suis arrivé le matin de l'interrogation. J'ai lu la consigne et j'ai commencé à rédiger ma réponse. Une semaine après, quand on a eu le résultat, quand j'ai eu le résultat du devoir, j'ai eu 0. Je ne vous explique pas le choc que ça m'a fait et le moment d'incompréhension qui s'en est suivi, de se dire mais que s'est-il passé, et de réaliser tout simplement que j'avais mal lu la consigne et que j'avais fait un hors-sujet. Pour Paul, il avait tout juste devant ce Dieu. Il voyait tout cela comme un gain, comme des bénéfices à faire valoir devant Dieu. Pourtant, il s'est rendu compte qu'il avait tout faux, qu'il était hors sujet, parce qu'un jour, il a rencontré Jésus-Christ, et vous pouvez lire le récit de sa rencontre avec le Christ dans Actes chapitre 9, les versets 1 à 22. Et Paul parle de Christ comme d'un véritable trésor, ce qu'il y a de plus précieux. Tellement précieux que le CV qu'il a dressé de sa vie, eh bien, on pourrait dire dans une colonne ou qui était intitulée des gains, il le bascule dans la colonne d'en face qui s'appelle perte, et il prend Christ et il le bascule dans la colonne gain. Paul sait ce qu'il veut. Il dit, en fait, c'est Christ que je veux et rien d'autre. Il n'y a rien de plus excellent que de connaître Jésus-Christ. Paul voulait absolument être en relation avec Dieu et il s'est rendu compte qu'il n'y a que Christ qui pouvait lui offrir cette relation. Paul comprend que tout ce sur quoi il avait misé pour une bonne relation avec Dieu, eh bien, tout cela était totalement inutile. Il dit qu'il considère tout son CV comme de la boue, et les traducteurs sont tellement gentils de nous mettre cela, parce que dans l'original, cela veut dire plutôt comme des excréments. Tout cela ne sert à rien, ça sent mauvais. Je ne peux pas gagner une relation avec Dieu avec ces choses-là dans ma vie. Je renonce donc, dit Paul, à mettre ma confiance en mes origines, à mettre ma confiance dans ma nationalité, à mettre ma confiance dans ma culture, mon prestige, mon éducation, ma religiosité, mes bonnes actions, ma moralité. Toutes ces choses me sont inutiles parce que je ne peux rien faire valoir de tout cela devant Dieu. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Versets 8 et 9. Paul a compris qu'il ne peut compter sur sa propre justice, sur son obéissance, mais qu'il doit compter sur la justice que seul Dieu peut lui donner et qui s'obtient par la foi. Voilà pourquoi notre joie est profonde, parce que notre relation avec Dieu n'est pas basée sur ce que nous faisons pour Dieu, mais sur ce que Dieu a fait pour nous au travers de Christ. C'est libérateur parce que nous n'avons absolument rien à prouver, ni à Dieu, ni aux autres autour de nous. Nous avons confiance que Christ a tout accompli par sa vie, par sa mort sur la croix et par sa résurrection, qu'on a encore célébré au travers de ce repas ce matin. Alors j'ai une question pour vous, pour nous. Qu'avons-nous mis dans la colonne des gains de notre vie? Que cherchez-vous à faire valoir peut-être ce matin pour mériter Dieu? Peut-être que vous vous dites que votre vie est plutôt une vie morale et plutôt une vie éthique, dans les choix que vous faites. Vous recherchez le bien des autres. Vous donnez de votre argent pour la recherche peut-être contre le cancer ou d'autres choses. Vous êtes pleinement impliqué et bénévolement dans une association au service des autres. Vous êtes plutôt honnête et sérieux dans votre travail, fidèle à votre conjoint ou votre conjointe. Vous êtes serviable, toujours prêt à rendre service à vos voisins, à vos amis. Vous êtes même avec ce désir de venir en aide à des personnes défavorisées. Et tout cela est tellement honorable, mais ne permet pas de mériter Dieu. Peut-être que ce matin, vous êtes là, assis, et vous comptez sur le fait que vous allez au culte chaque semaine. Vous venez ici tous les dimanches. Vous lisez votre Bible régulièrement. Vous priez même souvent. Même vous jeûnez de temps en temps. Peut-être vous comptez fortement sur le fait que vous êtes né dans une famille chrétienne. Que vous allez au groupe de jeunes de l'église. Que vous donnez une partie de votre argent, de vos revenus à Dieu. Toutes ces choses sont bonnes, mais ne font pas de nous des disciples de Jésus-Christ. Rien de tout cela ne nous permet de mériter quoi que ce soit de la part de Dieu. Dieu ne se mérite pas, il se reçoit. Je ne peux recevoir Dieu qu'en plaçant ma foi, ma confiance en Christ et en Jésus-Christ à qui revient tout le mérite. Voilà pourquoi nous pouvons être fiers de Jésus-Christ en tant que chrétien. Voilà ce que Paul a compris et pourquoi il a accepté de renoncer à tout pour avoir Christ et vivre pour lui, pour mieux le connaître et le faire connaître. Paul ne voulait rien d'autre que se confier en Jésus-Christ. Paul ne voyait rien d'autre de plus excellent que connaître Christ. Enfin, Paul ne désire rien d'autre que ressembler à Jésus-Christ. Cet été, nous sommes entrés dans une boutique d'un artiste qui peignait des œuvres magnifiques et en plus très humoristiques. Mais ces œuvres originales étaient juste inaccessibles parce qu'elles coûtaient très très cher. En tout cas, inaccessibles pour nous. Mais on pouvait acheter à moindre coût et repartir avec une copie de ces œuvres, une reproduction de l'original. Paul affirme que puisque Christ est tout pour lui, il veut calquer sa vie sur le modèle de Christ. Il veut que sa vie soit en quelque sorte une reproduction de celle de Jésus-Christ. Il veut lui ressembler toujours plus. Rappelez-vous cette trajectoire de Christ qu'on a vue dans le chapitre 2. Pour nous sauver, Jésus a renoncé à sa gloire. Il s'est abaissé pour se faire serviteur. Il a souffert et il est mort sur cette croix à notre place. Puis il est ressuscité et a été élevé auprès du Père. Paul affirme qu'il a renoncé à tous ses gains, qu'il considère désormais comme une perte, afin d'être trouvé en Jésus-Christ. Tout ce qui compte maintenant pour lui, c'est vivre une vie qui ressemble à celle de Christ. Il est serviteur de Christ et se met au service des autres, comme Christ l'a fait. Il est en prison alors qu'il écrit cette lettre. Il subit des souffrances. Et au moment où il écrit cette lettre, il a déjà subi un certain nombre de souffrances à cause de l'Évangile, à cause de ce message qu'il porte, qu'il annonce et qui concerne Jésus-Christ. Et il est même prêt, dit-il, s'il le faut, à mourir pour la cause de Christ. On a aussi vu ce verset dans Philippiens chapitre 1, verset 21. En effet, affirme Paul, Christ est ma vie et mourir représente un gain. Qu'importe, Paul sait qu'il va ressusciter. Un jour, cela se produira comme Christ a été ressuscité. Peut-être que vous vous dites, en considérant cela, waouh, Paul, c'est le top de, peut-être d'une vie chrétienne, et combien j'ai l'impression que ma vie est peut-être loin de ressembler à celle de Paul et peut-être à celle de Christ. Paul se sait bien incapable, se savait bien incapable de vivre une telle vie de lui-même. C'est pour ça qu'il affirme qu'il veut expérimenter la puissance, au verset 10, qui a permis de ressusciter Christ et qui est disponible pour chacun de nous en tant que chrétiens par la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Cette puissance est nécessaire pour une vie qui soit toujours plus à la ressemblance de Christ. Cette puissance de Dieu est nécessaire dans nos vies pour renoncer à notre moi, pour sortir de notre zone de confort, pour dire non au péché, pour servir les autres, pour supporter les souffrances liées à notre appartenance à Christ, pour accepter de mourir s'il le faut, s'il le fallait, à cause de Christ. Qu'importe, puisque nous savons qu'un jour, comme Christ, nous ressusciterons. Pour nous encore ce matin, que désirons-nous profondément en ce moment dans notre vie? Est-ce que Christ est ce que nous avons de plus précieux, ou est-ce que nous courons après tout un tas de choses qu'on pourrait classer d'une certaine manière dans cette colonne de gains, mais qui sont tellement peu importantes comparées à ce trésor que l'on possède en Jésus-Christ? Avons-nous ce désir de lui ressembler toujours plus, que notre vie soit le reflet, que notre vie soit une reproduction de la vie de Jésus-Christ? Je termine. Réjouissez-vous de tout ce que le Seigneur est pour vous. Effectivement, si Jésus est tout pour nous, alors nous avons pour cette semaine et pour le restant de notre vie, une source de joie immense et totalement indépendante des circonstances, parce que Jésus est celui sur qui on repose notre confiance pour notre salut. Parce que Jésus est ce que nous avons de plus précieux, même si nous n'avons rien d'autre. Parce que Jésus est celui qui nous donne la puissance et les capacités de vivre une vie qui lui ressemble. Alors oui, réjouissons-nous de tout ce que le Seigneur est pour nous.